Bonsoir tout le monde ou bonjour, hein, dépendant de l'heure de la journée. On est à Critique Exquise. J'étais avec Tommy Godet.
You bet!
Hey, ça va?
Ah, moi, je vis des moments extraordinaires.
Extraordinaire.
J'ai encore un petit peu de Shanghai Fortress dans l'arrière de la gorge, là, mais ça va passer.
Je pense qu'on l'a tout, hein? Puis bien sûr, Pascal Grenier. Pascal Grenier qui boit de l'eau.
Il est en train de se prendre une gorgée.
Juste... Ouais, parce que moi aussi, faut que je digère. Shanghai Fortress. Ça fait une semaine qu'on en a parlé, puis je suis encore...
Traumatisé.
Oui, traumatisé.
Puis, bien sûr, on est accompagné de notre invité, Florence Payette.
Allô.
Ça, ça va?
Moi aussi, là, il faut que je digère un peu Shanghai Fortress. Ça reste sur le cœur, ce film-là.
Ouais, mais ben, beaucoup de digestion aujourd'hui à l'épisode. Oui. Donc, cette semaine... cette semaine, on va essayer de gérer d'autres choses. Des films qu'on a vus récemment, on va parler de n'importe quoi ou de rien pantoute. Y a-t-il du monde qui va le commencer?
Moi, je vais vous impressionner parce qu'il m'est arrivé quelque chose cette semaine. Vous savez que les films de chiens, j'en regarde.
Hein? Ouais.
Toi, tu voulais commencer?
Non.
OK, vous riez pourquoi?
La prémisse était belle.
Ouais.
OK. Ton introduction était magnifique.
OK, ben il m'est arrivé quelque chose cette semaine. Et c'est bon, il est arrivé dans ma chambre. Puis là, il dit, tu sais, les docteurs Doolittle, là, c'est des films de chiens. Là, j'ai fait « Ah, calice! » Fait que là, je suis allé ouvrir mon club vidéo en ligne et vite de même, vous pensez qu'il y en a combien des Dr. Doolittle?
4?
8?
Il y a le nouveau qui va sortir.
OK.
Trop.
Je savais pas ça.
Avec Robert Downey Jr.
Ah, non, oui. Pas, hein? Faut fasse d'autres choses.
Il y a plein de
bien fasse d'autres choses.
Problem.
Ça fait 25 ans qu'il fait la même affaire.
Ben là, écoute, Kiss Kiss Bang Bang puis Dr. Doolittle, je pense pas que ça va être un petit peu le même réseau. Mais toi, c'est combien tu penses qu'il y a de Dr. Doolittle?
Ben là, ça dépend que tu parles des spin-offs de TV puis des affaires de direct en vidéo puis tout. Là.
Des films. Il y a celui de 1967.
Ouais.
Le meilleur.
Ouais.
Sinon, là, il y a eu celui de Eddie Murphy.
Il y a un avec Brendan Fraser.
J'ai pas vu ça.
Non, je pense pas. Il y a un film avec Brendan Fraser et des animaux.
Furry Vengeance. Côté 7.
Non, mais en fait, parce qu'ils sont rendus à 5 de la série de Eddie Murphy. Et à partir de la fin du 2, sa fille pogne le pouvoir de parler avec les animaux. Et c'est elle qui est l'héroïne du 3, 4 et du 5. Et le 5 s'appelle Million Dollar Mutts. J'ai vraiment très hâte de voir.
Y a-t-il un chien qui tombe sur une chaise puis se casse le cou?
Ça serait pas pire. Hein? Mais là, en fait, je suis allé chercher ça. Et j'ai pogné les deux premiers. Version doublée en québécois. Est-ce que c'était plate? C'est deux longs métrages.
Ça, c'est ça avec Eddie Murphy, tu parles?
Ouais.
Même en anglais, je pense que c'est aussi plate.
C'était très plate. Le premier s'avère finalement être un film d'hôpital psychiatrique. Parce que d'un bout à l'autre du film, Eddie Murphy refuse. Tu sais, c'est comme Batman qui veut pas être Batman. Il refuse d'accepter son pouvoir de parler avec les animaux. Et là, il l'a comme oublié. Puis là, à un moment donné, il y a un chien qui parle dans l'auto. Et là, il dit « le chien me parle! » Puis là, il panique. Puis là, après ça, presque, je dirais, un bon 20 minutes du film d'1h20, là, il veut nier ça. Tu sais, il veut pas. Fait que là, la joke, c'est tout le temps qu'il y a des animaux qui parlent. Puis là, tous les animaux se sont parlés entre eux autres. Puis là, tout le monde sait qu'il peut parler aux humains. Mais là, le Dr. Doolittle peut parler aux animaux. Mais là, lui, il veut pas assumer ça. Puis c'est plate en esti, là. Ouais. Fait que là, à un moment donné, il se fait pogner parce que c'est un docteur pour vrai dans la vraie vie. Et là, il se fait amener en hôpital psychiatrique. Et son ami, qui est comme le méchant du film, qui est le gars qui le garde dans l'hôpital psychiatrique, à un moment donné, il plug un orang-outan sur une machine parce que c'était l'animal le plus facile à avoir. Et là, il dit, fait que là, si tu peux parler aux animaux, tu vas pouvoir parler avec l'orang-outan. Et moi, je l'ai plugué sur une machine qui va mesurer ses ondes cérébrales, son activité cérébrale. Fait que si tu parles au singe, je vais pouvoir le prouver avec ça. Et là, Eddie Murphy, il commence à parler au singe, puis il fait, ah là, commande, là, aide-moi, tu sais, il faut qu'on parle, blablabla. Et là, il est arrivé un des moments, j'y pense encore, je ne sais pas pourquoi, mais. il se lève, tu sais, parce que là, le singe répond rien. Fait que là, Eddie Murphy se lève. Puis là, ben, c'est quoi? Non, je vous promets, blablabla. Tu sais, laissez-moi une autre chance. Puis là, il le ramène dans l'hôpital de fou. Mais là, le singe, il fait mais no hablo inglés. Fait que là, l'autre, il fait ah, oh, c'est un singe qui parle espagnol. Et là, man, j'ai rien compris. Comment que les singes font pour parler espagnol? À un moment donné, le médecin lui dit « Si je te vois pendant une journée, pas faire des grognements de chien, des miaulements de chat, puis pas faire des piaillements d'oiseaux, peut-être que je vais penser que t'es guéri. » Fait que ça veut dire que Dr. Doolittle, nous, on entend de l'anglais ou on entend du français, oh, oui. Mais il parle aux animaux
oui.
En utilisant des bruits que les animaux font.
Le langage des animaux.
Fait que c'est super compliqué. Puis là, les animaux, entre eux autres, ils se parlent aussi. Fait que ça veut dire que tous les animaux comprennent le grognement de l'autre. Ça m'a jeté à terre, man. Puis après ça, la thématique, je veux dire, là, il est en prison d'hôpital psychiatrique. Puis là, à un moment donné, il dit « Oh, fuck it, là... tu sais, je vais assumer, là, je le suis, mais là, en même temps, là, il fait comme s'il l'était pas. Puis là, il y a plein d'animaux qui font « Mais pourquoi tu m'ignores, mec? » Tu sais, parce que c'est de même que ça marche, les animaux, c'est comme ça que ça parle. Et là, finalement, ben, il sort de l'hôpital psychiatrique et il peut aller compléter la quest. C'était de faire une opération à crâne ouvert d'un tigre qui souffrait vraiment beaucoup. Et... Christ, que c'était plate. Il y a ça, tu sais, cette idée-là que, mettons, qu'ici, il y a un pouvoir magique de pouvoir parler aux animaux. Pourquoi est-ce que tu passes 90% du film à essayer de l'expliquer, à le remettre en contexte?
Ouais. Moi, je peux parler à ma mère, c'est une truie, pis ça. Je me comprends.
Mais quand tu parles à ta mère, est-ce que tu fais des bruits de cochon? Tu fais pas ça.
Non, c'est ça. Elle me comprend.
Mais lui, là-dedans, il fait ça. Puis là, j'ai vu le 2, je vous fais ça rapidement. 2, il y a eu un de mes acteurs préférés de la vie dedans, c'est Bart the Bear. C'est l'ours qui était dans presque tous les films que vous avez vu un ours.
Ouais, le film de Dan Aykroyd. Puis John
Candy. Oui, oui, oui. À la fin, là, l'ours.
C'est lui dans The Edge?
Non, c'est lui dans The Bear.
Dans The Bear, c'est lui.
Ah oui, OK, OK.
Ouais, ouais,
mais
ouais.
Pas dans The Edge, il
non,
était sûrement mort.
J'étais trop vieux. Là.
Ouais, parce que dans The Edge, c'est un vrai aussi.
Ouais, ouais.
Un
vrai ours. Ben,
avant ouais. Qu'ils te mettent des, à faire mais, des mais, animaux mais, non-stop mais, en CGI. Là,
mais,
bon.
Mais je pense qu'il voulait jamais associer The Bear à de quoi de violent. Le c'est quoi son nom? Bart?
Bart the Bear.
Mais the Bear, c'est excellent.
Tant qu'il soit comme genre un...
Ouais,
que l'ours soit bien portrayed.
Ouais.
Oh,
c'est très bien réussi, très belle carrière. Et là, dans celui-là, dans Dr. Doolittle 2, le film commence, et je dirais la plus grande source de perplexe que j'ai vécu par rapport à ce film-là, c'est que là, le Dr. Doolittle est rendu une sommité mondiale. Tout le monde assume qu'il peut parler aux animaux. C'est correct, ce bout-là.
Ouais.
Et ça change à peu près rien. Je veux dire, moi, si, mettons, dans notre vie de tous les jours, on apprenait que Jean-Claude, whatever, peut parler aux animaux, là.
Ouais.
Sacrement, on veut pas. Tu sais, donne-nous des trucs. Ça va être étudié all the way, mur à mur, tu sais. Mais là-dedans, c'est juste comme le gars qui peut guérir des pigeons quand ouais. Ils sont blessés.
Mais ils font rien avec ce concept-là. Genre, il aurait pu faire une parodie de. Des psychics de chiens, tout ça.
Effectivement.
D'aller qu'il y a des gens qui le croient, des gens qui le croient pas.
Ben, je dirais que c'est un petit peu là que peut-être Eddie Murphy pouvait se laisser Eddie Murphyiser plus. Là, parce que là, il devient comme conseiller matrimonial d'un duo de pigeons, puis tu sais, des affaires de même. Mais là, ce qui drive le reste, c'est qu'il y a un castor qui est comme un parrain de la mafia des animaux de la forêt là, qui fait venir Eddie Murphy.
Comme
à leur forêt. Et là, il dit, si tu nous aides pas, notre forêt va être rasée parce qu'il y a des méchants qui sont super méchants. Là. Ils sont pas beaux, ils sont méchants.
Ils aiment pas les animaux.
Ouais, ben non, ils aiment pas ça. Ils haïssent ça. Il y a Jeffrey Combs. C'est ça son nom, le gars qui était dans Howard the Duck puis qui est en prison pour pédophilie. Là. Jeffrey Combs, Jeffrey Jones. Voilà.
Insulte pas Jeffrey Combs. Ben, Jeffrey Combs, c'est mon réanimateur. Là. Il est awesome.
Je me suis trompé. Là. C'est pour ça que
on savait qui parlait. Le gros roux qui avait l'air d'un pervers. Pis ça
dans Ferris Bueller, il est toujours après Ferris Bueller.
C'est ça. Mais là-dedans, lui, il veut détruire la forêt. C'est bien important. Puis il est avec aussi le gars qui était dans Usual Suspects, qui faisait le sniper. Oh, on s'en fout. Et là, en fait, l'histoire, c'est qu'ils découvrent que dans la forêt qu'ils veulent raser, il y a une ours brune qui est la dernière de son espèce. Et là, s'ils pouvaient trouver un ours brun pour la matcher, ben, ça deviendrait comme une zone protégée pour que cette espèce d'ours-là poursuive.
Mais l'ours brun, il est gay.
L'ours brun, ben, c'est à peu près ça. L'ours brun, c'est Bart the Bear qui a passé toute sa vie dans un cirque. Et là, au début, ils disent c'est impossible qu'un ours qui est dans un cirque puisse retourner dans la liberté. Ce que je sais pas, je n'ai pas fait de recherche. Mais là, ils se ramassent tout le long du film. C'est Eddie Murphy puis l'ours qui essayent de trouver une manière pour que l'ours femelle tombe amoureuse de l'ours mâle.
Je me rappelle vaguement du trailer. Là, t'sais.
Et là, tu as comme des punchs parce que les ours femelles, on sait que ça aime les mêmes choses que les madames humaines femelles.
Ouais.
C'est dans le même ordre, de la même manière, qui sont toutes pareilles. En fait, c'était tellement niaiseux que j'ai plus aimé le deuxième que le premier. J'avais surtout du fait que le docteur Doolittle ne veut pas être Batman. T'sais. Là, Batman, il est Batman, puis il utilise ses pouvoirs, puis on le voit aller, puis c'est le fun. Puis le film commence que là, il se chicane avec sa fille, puis là, il convainc sa femme, ben là, il faut qu'on aille dans la forêt, là, parce que blabla, tu sais, pour passer nos vacances, puis là, je vais pouvoir aider l'ours, tu comprends, c'est important. Puis là, la fille, elle passe le film à chialer, tu veux pas passer de temps avec moi? Ben oui, mais chaque séquence, il faut que j'aille avec l'ours pour l'aider
sa femme va penser qu'il y a trop. Parce qu'il est tout le temps avec l'ours. Puis ils vont avoir une scène où que la femelle ours, Eddie Murphy essaie de montrer au mâle comment fourrer la femelle. Puis c'est comme.
Ça devient
la
femme mal interprétée.
Comme, oh my god, I start to fourrer les animaux.
Il y a des petits malaises ça, right? Comme
and
ça.
And hilarity ensues.
On se ramasse à la fin. Et c'était extrêmement. Cave, là. Il y a plusieurs séquences, tu sais, parce que là, c'est un ours du monde du spectacle, puis là, à un moment donné, il chante I will survive and you know that I'm alive. Mais là, c'est l'ours qui chante, traduit en français québécois. Mon gars,
c'est là, c'est quoi, ça donne la dame en bleu?
Ben, non, mais il chante je survivrai, tu verras bien. Et là, finalement, l'ours est. Puis en plus, l'ours femelle est amoureux. Est amoureuse d'un grizzly qui la néglige, qui est pas fin.
Ouais, c'est
genre, il est où le repas? Puis elle fait, ben, je pensais que toi, t'étais pour l'amener. Puis là, c'est-tu fait que je vous déconseille fortement. Moi, je vais écouter le 3, 4, 5 dans le futur. Ça devrait être très plate.
C'est un bon film pour enfants?
Même pas. Non, c'est un film cave. Là. C'est...
Je pense que ça sonne entertaining, les enfants. Il y a des animaux qui parlent.
Oui, ben, tu sais, moi, je l'ai vu quand j'étais kid. Là, fait que... j'ai fait l'erreur de regarder celui de 1967 avant.
Ouais, ça, celui-là, j'ai hâte.
Celui des années 67, là, moi, je l'avais vu, j'étais pas en 67, on s'entend. Je l'avais vu quand j'étais jeune, ça avait joué, puis ça m'avait tapé ses nerfs, ça avait juste chanté là-dedans, c'était pénible.
Oui, moi, ça allait. J'étais assez jeune pour ça.
Ça chante beaucoup, là.
Dans la vague des musicals, mais genre, de ce que moi, je m'en rappelle, c'est pas trop pire. Puis de ce que Pascal s'en rappelle.
Vous êtes conditionné à aimer ça.
C'était pénible.
Les jeunes filles sont conditionnées à aimer les.
Moi, Eddie Murphy,
j'ai été allergique aux comédies musicales pendant vraiment longtemps.
High five, tout est cool.
Moi, j'aime les comédies musicales, mais juste les celles qui sont
celles qui sont bonnes.
Indiennes.
Ouais, mais moi, ça m'a pris Singing in the Rain pour pouvoir comme réapprécier les comédies musicales.
Ben, des sous des années 40-50, il y en a des très bons.
C'est pas mal bon. J'ai plus rien à dire à propos de Dr. Doolittle. Je vous tiens au courant. Ouais. Très peu film de chien, le deuxième. Le premier, définitivement, film de chien, vu que le chien, c'est lui qui l'amène à comme accepter ses pouvoirs. Puis là, il fait OK, tu veux m'ignorer? Mais je vais continuer à te parler pareil. Puis là, le chien, tu sais, ça, il pousse. Puis là, à un moment donné, Eddie Murphy sauve le monde. Là.
Les chiens, c'est la porte d'entrée vers l'appréciation des animaux.
Exact. Si tout le monde pouvait aimer les chiens autant qu'aiment les gens, on aurait la paix dans le monde.
Oui.
Ça, j'ai vu sur un Facebook post.
Oui.
Et après ça, je vais le tuer. Comme de quoi tu parles? Moi, mon chien, je le tue, tu le bats. Je suis pas de chien.
Il est mort, justement.
Mais tu sais, c'est clair qu'il y a du monde qui traite mal leur chien. Non?
Ben oui,
on réglera pas ça.
Et voilà. Puis il y en a qui pensent bien traiter leur chien, mais qu'au final, ça l'aide pas.
Ouais, puis si on traitait les autres comme on traite notre chien, tout le monde serait nos esclaves.
T'sais, voilà, tout le monde attendrait qu'on ouvre la porte pour aller pisser. Fait que, y a-tu quelqu'un qui veut jaser d'autre?
Moi, je veux parler de Dr. Doolittle.
La version CGI, là.
Ben, c'est ça, il y a le nouveau qui s'en vient avec Robert Downey Jr. puis Tom Holland qui joue le Spider-Man le plus récent. Puis il y a eu plein de problèmes de production. Ça fait longtemps que c'est censé être sorti. Puis, un des CGI artists sur le film, le lead artist, a posté une grosse histoire sur Twitter de comment que le film allait mal puis comment que le réalisateur était complètement fou.
Oh, ça va bien,
ça. Il fallait qu'il organise des shots CG on the day, mais sans savoir si quel animal qui est censé d'avoir dans la scène puis où l'éclairage va être. Comme.
C'est pas un peu important, ça, cette affaire.
Ouais, c'est ça. Puis après ça, on the day, il voulait qu'il change.
Je veux dire, c'est pas comme, mettons, on sait pas où le gars va être. Là, on sait pas quel animal ça va être.
C'est genre, même problème. Celui qui vient avec son entraîneur, là.
Ouais.
Il va falloir qu'on sédule les deux, puis tout, là.
Yeah. Fait que là, tu sais pas si ça va être une panthère ou un rat, puis vas-y.
Surprise!
La preuve que le CGI, c'est de la marge, j'ai toujours dit.
Ah ben ça, on est un petit
pas juste au niveau visuel, mais juste au niveau de l'acting. Moi, je serais pas capable d'être acteur et de dire, genre, fais semblant que, genre, c'est une bébite qui t'affronte.
Puis il
y a un gros giant souffleur qui te souffle d'en face. Hein, puis t'essaies de deviner. Moi, j'aimerais mieux qu'un maquillage tout croche s'avance vers moi. Je pense que je serais capable de mieux acter que de faire semblant devant quelque chose que je sais pas
c'est quoi.
C'est
la première fois que je t'entends parler que tu veux acter, toi.
Oui.
Puis, fait que dans le fond, il faut se tenir au courant du prochain Docteur Doolittle.
Ouais, c'est ça.
Parce que c'est le nouveau île du Docteur Moreau, genre.
Je pense que l'île du Docteur Moreau va rester meilleur.
Ouais.
Ce film-là, c'est intéressant.
Ouais, c'est intéressant.
Surtout le documentaire.
Le documentaire, c'est malade.
C'est bon,
ouais.
Mais moi, Florence, c'est quoi
ta vie?
Je vais parler du Dr. Doolittle.
Ah, non, yes!
Non,
c'est 1967, la comédie musicale.
Ah, je me rappelle presque rien de ce film-là. Il va falloir que je le réécoute. Mais je vais plutôt vous parler d'un autre film d'animaux, un documentaire nommé Blackfish, qui n'est pas sorti cette année, mais qui vaut la peine d'être regardé sur... La moralité sous-jacente, c'est la question, c'est plutôt est-ce qu'on serait mieux de relâcher tous les animaux qui sont dans des zoos, dans des cirques, des choses comme ça, pour les remettre en liberté. Et on suit l'histoire d'un épaulard nommé Tilikum qui est passé, en fait, il a été capturé dans la nature, puis il a été vendu à SeaWorld. Puis SeaWorld a fait des shows avec Tilikum, et ce qu'on ne savait pas, c'est que Tilikum avait une fâcheuse tendance à tuer ses entraîneurs. Et on va voir, en fait, pourquoi, qu'est-ce qui a fait en sorte que SeaWorld a caché ça à ses entraîneurs, c'est quoi que ça prend pour former un entraîneur des polars. Et il y a 3 décès à l'actif de Tilikum, mais étant donné que Tilikum, c'est un épaulard mâle, ils en ont besoin pour la reproduction, ils ont caché ces informations-là au grand public.
Oh, fuck, hein?
Ouais, non, c'est ça. Moi, je vais avec Dr. Doolittle, puis là, je vais avec le EV, là.
Ouais. Hey, c'est un World Winning Doc, là, qui est comme tout
le monde. Ouais.
Hey, mais je veux voir ça.
Puis c'est vraiment intéressant parce qu'on apprend, non seulement on apprend à propos de SeaWorld puis de Tilikum, mais on apprend aussi au niveau des épaulards. Puis je trouve que c'est des créatures déjà là comme fascinantes. Quand on les voit, je veux dire,
c'est le plus gros prédateur sur Terre.
C'est les bullies de l'océan.
Ben c'est ça. Puis c'est super intelligent. Ça se promène en communauté. Puis ce que je savais pas, c'est que les épaulards ont des différentes façons de communiquer selon leur communauté.
Ils ont des accents, genre.
Ben, ils ont plus des langages à proprement parler, parce que ce qu'ils se sont rendus compte, c'est mettre plusieurs épaulards dans un même bassin, qui ne viennent pas des mêmes communautés. Ils ont énormément de frustration à communiquer. Puis, ça se résume en de l'agression. Ça fait qu'ils vont comme se scraper le dos, vont comme se donner des coups, choses comme ça.
Je t'avais dit de pas me péter dans la face. Puis
genre, t'as pas le droit de faire pipi dans mon territoire de bassin. Ouais. Fait que, puis, mais sauf que ça peut générer de l'agression, genre assez pour que les épaulards se tuent l'un l'autre.
Oh shit!
Hein. Et même comme génère, en fait, les petits épaulards qui sont nés en captivité Pour une raison qu'on ignore, probablement la captivité, ils sont toujours en train de se venger sur les entraîneurs.
Ben, c'est sûr.
Fait qu'il y a eu plein de problèmes. On voit la liste des entraîneurs.
Je veux dire, moi, personnellement, je pense qu'on devrait arrêter ça.
Moi aussi.
Je pense qu'on devrait fermer. Chris, c'est une affaire déjà, qui peut nager 1200 km par jour, puis on le met dans une piscine grosse comme...
Mais dans Orca, en 77, il parlait de toutes ces affaires-là. D'ailleurs, il disait que c'était un prédateur, puis c'est ça, puis l'esprit de vengeance. Puis c'est pas pour rien que ce film-là, c'est un film de vengeance, mais avec un orque. C'est parce que ça respectait aussi le...
Ben, l'affaire, c'est que dans la nature, ce qui est étonnant, justement, qu'on apprend dans le documentaire, c'est que, puis j'ai vérifié par la suite les dires du documentaire en faisant mes propres recherches, c'était que effectivement, dans la nature, il y a très peu d'agression des polars envers les humains. Il n'y a eu aucune mort déclarée d'humains avec les polars. Il y a eu comme une attaque, entre guillemets, des polars où c'était un enfant de 11 ans qui s'est fait prendre une petite croque par un épaulard, puis l'épaulard l'a rejeté parce qu'il s'est rendu compte que arc, ça a un bout d'humain, puis c'est dégueulasse.
Il n'y a eu pas de mort comme annoncé de l'épaulard, mais il y a eu genre 500 personnes qui sont disparues à des places qui avaient des épaulards. Ils sont juste disparus, sûrement pas les épaulards.
Genre, t'as aussi comme, étant donné que c'est dans de l'eau froide, probablement hypothermie, je vais dire ça.
Ce qui est sûr aussi, c'est que, je veux dire, l'eau.
C'est ça qui est cool, l'horreur. Il l'amène dans l'hypothermie à la fin. Il l'amène à Terre-Neuve. C'est à Terre-Neuve.
C'est des prédateurs supérieurs puis qui habitent beaucoup dans l'eau glacée. Fait que déjà là, ils doivent pas côtoyer des humains bien souvent. Ouais. Et là, après ça, on se ramasse qu'on les force à côtoyer du monde.
C'est ça. C'est que la manière dont... ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est que les épaulards sont c'est des prédateurs, mais c'est pas des prédateurs pour les humains. Je veux dire, les primates, ça les intéresse pas. Puis, c'est pas leur source de nourriture, point. Puis, ça devient ultra-friendly, puis ça aime jouer, ça va proche des bateaux, c'est super curieux. Puis, c'est des créatures qui ont une partie du cerveau qui est vraiment plus développée que les primates. Puis, la partie du cerveau correspond à la partie des émotions. Donc, ça a une vie émotionnelle ultra-active. Puis, genre, ça processe les émotions probablement pas mal plus rapidement, puis pas mal mieux que les humains. Puis ça fait en sorte que comme les communautés qui sont là sont déjà établies, c'est comme on pense que ça réfléchit plus en tant que communauté puis moins individu. Fait que quand on sépare un individu de sa communauté, il a perdu ses repères, il a perdu sa langue, puis là on le met dans un bassin avec d'autres qui n'ont pas de repères puis qui n'ont pas de langue. Puis ça génère.
Ça devient rapidement moralement injustifiable. Là. Surtout que la source, c'est pas pour comme aider une espèce en voie d'extinction ou de se reproduire.
C'est juste purement capitaliste.
C'est pour faire une coupe de pièces sur le dos.
C'est
comme de la lutte, dans le fond.
Les jeunes, on vous met là, mais tu sais, il faut pas que vous soyez pisse contre nous autres quand vous allez grandir, s'il vous plaît. On veut vous aimer l'Amérique, là.
Je le vois tellement, le kid dans une couple d'années qui va trouver ce podcast-là. Puis qui va Jérémy et puis son message d'amour.
Mais les épaulards, la seule affaire que je sais, c'est que. Ils mangent des requins, genre. Ils sont capables de viser le foie. Ils mangent juste le foie du requin.
Oui. Ils sont capables en gang de mettre un requin sur le dos puis de manger le foie.
Ouais.
Mais ça, c'est encore là quelques communautés parce qu'il y a des communautés qui ne se nourrissent qu'exclusivement que de raies, que de petits poissons. Ça dépend même. Tu as des communautés qui sont à l'intérieur. C'est des estuaires qui vont comme se promener proche des plages. Tu as des communautés qui vont être plus à l'extérieur, comme dans la grande mer, etc. Puis c'est super impressionnant. En tout cas, j'aime ça, moi. Documentaires animaliers. Puis là, ça comme... C'est venu me chercher. Puis non seulement ça, mais j'ai fait aussi mes recherches sur le côté, voir... Parce que c'est beau voir un documentaire, mais c'est aussi bien de vérifier les sources qui te sont montrées dans le documentaire par la suite, voir... partager le vrai du faux.
Je dirais même que les meilleurs documentaires amènent de l'action, là, qu'après ça, tu vas t'informer.
Oui, exactement.
Que tu sais, tu fais pas juste comme réfléchir à ce que tu as
vu. Non, c'est ça.
Tu t'impliques dans ce que tu as appris, mettons.
Exact. Puis, c'est ça, en faisant mes recherches, tu sais, j'en ai appris pas mal sur les épaulards, j'en ai appris aussi pas mal sur SeaWorld, pourquoi est-ce que c'était ça. Puis, il y a aussi des branches de SeaWorld qu'on connaît pas, genre l'Europarquet qui est dans les îles Tenerife. Puis, pourquoi est-ce qu'il y a eu des échanges d'épaulards entre les deux? Puis pourquoi est-ce qu'il y a encore des échanges des polars? Puis pourquoi est-ce qu'on va voir comme des grands prédateurs genre Télécom? Pourquoi? Comme il y a eu sa dernière attaque date de 2010, puis après ça, ils l'ont stationné dans un bassin jusqu'à temps qu'il meure. T'sais. Fait que genre tout ça, tu fais comme ah, mais pourquoi?
Tu pas,
parce que c'est un reproducteur. Okay, c'est ton plus grand reproducteur. De temps en temps,
il allait le branler pour avoir de la semence. Mmh.
Exact.
Ouais. Ça sonne comme un film cyberpunk.
Oh. Ouais. Réellement, là.
Puis il s'appelle Télécom.
Télécom.
OK, Télécom. OK.
Ben, Télécom, mais genre avec l'accent anglais, c'était genre. Je comprends. Télécom. Mais voilà. Puis il y a eu aussi une descendance. Puis généralement, comme lorsque tu fais de la reproduction comme ça, tu vas jamais prendre un individu qui a une potentielle, t'sais, un track record pour attaquer des humains.
Ben, Chris, non.
Mais quand tu as payé pour avoir un reproducteur comme ça, ben, tu caches le fait qu'il a attaqué les humains. Et ce qui est encore plus bizarre, c'est que SeaWorld a accusé les victimes. A dit, genre, tu sais, c'est à cause qu'il y a quelqu'un qui avait une queue de cheval, puis elle s'est fait traîner dans l'eau, alors qu'il y avait comme des précédents. Elle
cherchait le rape.
C'est à peu près la même thématique du victim blaming, là, fait que, puis ben c'est ça, c'est, tu vois tous les rouages de la machine SeaWorld, capitalisme, etc., qui ont tout mis en œuvre pour effacer ça puis pouvoir garder
ça, c'est pas le premier documentaire sur le sujet, là, depuis une couple d'années, il y en a quand même pas mal qui sortent sur le sujet des épaulards dans les...
Ben c'est celui qui a fait mouche.
Okay.
Parce qu'il est vraiment bien réalisé, il est vraiment bien bâti, les questions sont claires, puis les explications sont claires aussi. Fait que ça, c'est ce que je dirais, c'est un excellent documentaire. S'il y a des gens qui ne sont pas habitués de voir des documentaires, je pense que c'est un bon documentaire sur lequel commencer.
Ça me va.
Ouais, j'ai tout le temps voulu le voir, mais je pense qu'il était sur Netflix.
Il est encore sur Netflix.
Oh, voilà.
You do it.
Quand j'avais Netflix.
Pascal, là-bas, là, il a l'air de charger ici.
Hey, Pascal, toi, ce que t'as vu?
Ouais, qu'est-ce que t'as vu, toi?
Ben, moi, j'ai vu... Il y a des films que j'ai adorés. Je pense que je vais plus en reparler que ça, parce que ces trois-là, c'est sûr que ça se retrouve dans mon top 10 de la meilleure film de l'année. Je peux les mentionner tout de suite, là, les titres, mais juste parce que c'est des gens. Il y a Marriage Story, Knives Out, et Hidden Life, c'est sûr que c'est trois films.
Knives Out, parce qu'on a un podcast qu'on a fait où ce que t'avais dit, genre, Knives Out, ça va être de la merde, ça.
Ouais. c'est vrai, mais c'est la preuve que des fois, je peux être surpris. Même Knives Out, c'est probablement le film que j'ai eu le plus de fun au cinéma.
Wow. Ouais, fait qu'à cause de toi, j'ai le goût d'aller le voir. Si quelqu'un d'autre veut aller le voir, on peut y aller en gang.
Mais au lieu de parler de ces trois films-là, je vais parler d'un petit film que je suis vraiment tombé par hasard, puis c'est vrai, parce que là, moi, j'aimais bien Michael G. Pollard, un acteur quand même... petite tronche. Tu l'as vu partout, toujours. Là. Il joue dans Tango and Cash. Il joue dans plein de films. Il fait toujours des petits rôles. Là, okay. Il avait joué dans Bonnie and Clyde aussi. Il avait été nommé pour le Best Supporting Actor. Puis depuis ce temps-là, mais il fait toujours à peu près des character actors. Là. Petite face, un petit bonhomme.
Il est dans
Blade Runner.
Ouais. Non, c'est pas lui.
Non, il n'est pas dans Blade Runner, non.
Mais
dans Tango and Cash, c'est lui qui fait comme l'espèce de char d'assaut. Il fait souvent genre des...
C'est lui qui fait JF, c'est qu'il ressemble.
En tout cas, bref, il y a une cent quarantaine de films. Il fait toujours les petits rôles. Il joue dans Dark Angel, ici. Il fait le cop qui donne les renseignements. Fait que bref, fait que j'ai décidé d'écouter petit film de lui par hasard.
Sorry.
Il joue dans quoi?
Je sais c'était où. Il joue dans Scrooge de Bill Murray.
Oui,
c'est ça. Lui le robot qui meurt.
Effectivement.
Ouais. C'est ça. Fait que bref, il y a toujours des petits rôles.
Tu penses à Blade Runner parce que le gars, il est dans le...
En tout cas, il est tout petit, là, 5 pieds 6, il parle toujours un peu comme ça. Là, fait que, il est très typecast. Là.
De qui tu parles.
J'ai écouté comme des films avec lui, mais j'ai réécouté Tango and Cash et cette affaire-là. Mais il y a un film que je savais pas c'était quoi, finalement. J'ai écouté ça, Motorama, puis ça a été une de mes belles surprises. Petit film, personne n'a entendu parler de 1991. C'est. Voilà. C'est. ça a été écrit par le gars qui avait écrit After Hours puis Vampire's Kiss. Fait que déjà, là, j'étais un peu intrigué.
Nicolas Cage.
Ouais. Puis c'est vraiment étrange. C'est, ben, premièrement, le protagoniste, c'est un enfant de 10 ans. Puis il part avec une Plymouth, un char, puis il s'en va sur la route. Puis il rencontre plein d'hurluberlus. Parce qu'il se sauve parce que ses parents, ils font juste s'engueuler au début du film. Tu fais juste entendre ça, tu te demandes qu'est-ce qui se fait. Il est en train de se faire des béquilles pour pouvoir conduire avec...
Wow, hein?
Fait que c'est ça, fait qu'il s'en va là-dessus, puis lui, c'est comme le rêve américain, puis Motorama, c'est de ramasser une vieille coutume des années 60 que si tu trouves toutes les lettres, tu vas réussir à gagner un super prix qui vaut genre 5 millions. Fait que lui, il se promène dans tous les garages à travers les États-Unis, puis il rencontre plein de personnages fucked up.
La loto live action.
Ouais, c'est ça. C'est à fait un peu David Lynch, là, parce qu'il y a des côtés un peu surréalistes, mais c'est David Lynch avant, on s'entend avant Twin Peaks, là, parce que tout le monde dit « Ah, ça fait Twin Peaks, ça fait Twin Peaks. » C'est quand même fait avant. Fait que ben... puis aussi, c'est ça, c'est, il arrive plein d'affaires. Là, il se fait crisser des volets, il se fait tatouer. Pour un enfant de 10 ans.
Il se fait crisser des volets.
Oui, parce qu'il tombe un moment donné, il sait pas, lui, il a quasiment pas d'argent, puis il essaie de quêter, puis des
ben oui, trucs
comme ça.
Assez.
Fait qu'il, t'sais, il sait pas sur qui il tombe, il tombe sur des motards, puis l'autre s'amuse, il est rentré, puis le lendemain, il est plein de tatous, puis il saigne, puis là, il continue sa route. Fait que c'est vraiment cool, tu sais pas trop comment ça arrive, c'est sûr qu'il y a un petit twist à la fin, mais bon, je vous l'expliquerai pas. Mais ça vaut vraiment la peine, un film complètement passé inaperçu, puis une petite
surprise. Comment t'as appelé ça?
Motorama.
C'est un bon nom.
Motorama?
Oui, tout okay. Ensemble. Parce que c'est le nom du... C'est comme le rêve américain, mais finalement, qu'ils se rendent compte que c'est pas le rêve américain. Tu sais, c'est comme à l'envers, là. C'est pas
comme,
ça.
Comme...
Comme Easy Rider. National
Lampoon's Vacation.
Oh, wow.
Ouais.
Mais c'est Easy Rider. Ouais, mais c'est à propos de ça.
Puis le petit kid, je le connaissais pas. Je pense qu'il a joué dans juste deux autres films avant, hein, mais il rencontre plein de personnages.
Mais des enfants acteurs, c'est difficile. Là, si t'en as trouvé un bon, d'habitude, tu veux pas le lâcher. Mm.
Non, c'est sûr. Ouais, ce film-là, comme pas...
Jacob Tremblay.
Ouais, ouais, Jacob Tremblay, on le voit un peu trop, là, mais bon, on verra
mais
qu'est-ce qui va arriver.
Qu'est-ce que tu veux? Il hein? Écoute bien. Il écoute bien les directives qu'on lui donne.
Moi, je sais pas si ouais, c'est bon. J'ai vu dans des films poches. Il joue dans des films poches.
Ben, Good Boys, c'était drôle.
Bien dans
ça, j'ai pas vu. C'est ça, j'ai pas vu les films.
Good Boys, il est cute dans Good Boys. Là. Mais il fait je pense qu'il va toujours jouer des enfants cute.
Il est excellent.
Ah oui.
Dans quoi?
Dans Room, il est excellent.
Ah oui, oui.
Fait qu'ils l'ont bien dirigé dans Room. Fait qu'il est pogné à Hollywood forever.
Ben, ça dépend. Là, dans quoi qu'il va tomber. Ou s'il a la tête folle comme Haley Joel Smith, là, il va se faire tasser assez vite.
Ouais, ça,
parce que lui, genre, je suis le meilleur acteur que la Terre a jamais porté. À peu près, je suis le meilleur child actor de l'histoire. Qui avait c'est dit, je pense, à The Sixth Sense, lui.
Haley Osment Joel.
Ouais.
Haley Joel
Osment.
Oui.
Oui.
Je paraphrase un peu, mais.
Normalement, ta tête à onf, c'est comme t'es à côté du gars qui a la tête le plus enflée.
Ouais, ouais, ouais.
En passant, dans mon film, là, il va y avoir un fucking prophète là, que tous ses écrits sont pas aimés par les critiques, mais ils vont se rendre compte que plus tard, c'est des masterpieces. C'est moi qui le joue.
Puis il y avait Bruce Willis pas loin en plus. Fait qu'imagine Bruce Willis. Ça doit pas naître un non plus.
Ah, c'est de l'ego au pied carré. Là.
C'est ça, c'est ça.
J'ai encore d'autres gros morceaux à voir. Là. T'sais, j'ai reçu le screener de Monsieur Rogers. Monsieur Rogers.
Pour nos auditeurs qui sont curieux, l'année passée, on avait fait. L'année passée, on avait fait un
Green Desert. Je vois le documentaire.
Ouais, le documentaire.
Ouais, ils ont fait un podcast.
Hey, calme-toi!
Non, mais l'année passée, on a fait une rétrospective annuelle. J'ai beaucoup aimé l'exercice et on va la refaire cette année, sauf que cette année, on va plus attendre en 2020 qu'on ait vu tous les films de 2019.
Parce qu'il y a aussi Scorsese aussi, là, que il faut que je me tape, mais c'est 3h30, fait que faut que je trouve le moyen. Marriage Story, je suis allé le voir au cinéma parce que je voulais le voir au cinéma. Ouais, mais celui-là aussi, il joue au cinéma. Si tu veux le voir, mais là, il est disponible maintenant sur Netflix.
The Irishman de Martin Scorsese est allé sur Netflix.
Ben, c'est le seul qui pouvait faire. Il disait que c'était le seul qui garantissait son. Le film comme qu'il voulait le faire.
Il y a plein de monde, comme d'habitude, qui chiale contre Netflix. Puis ils sont comme, ben, c'est la mort du cinéma. Non, tu sais, dans Irishman, ça devrait jouer au cinéma. Ben, c'est pas la faute de Netflix qui joue pas au cinéma, c'est à cause de plein de distributeurs qui ont pas voulu l'acheter.
Mais il y a aussi le fait que.
Mais il est sorti aussi, il est obligé de sortir au cinéma pour avoir les.
Pour sortir au cinéma puis rentrer dans ton argent, c'est pas assez. Fait que,
tu sais,
avoir une plateforme de distribution aussi grande que Netflix, ça peut te faire rentrer dans ton argent assez rapidement.
S'il y a eu sa run de cinéma, je pense qu'on est correct.
Ben, il y a eu, parce qu'à ça, si tu veux être nominé aux Oscars, faut qu'au moins tu aies joué au cinéma. Fait que ça, c'est la règle. Fait que c'est pour ça, c'est Marriage Story. Je pense que Scarlett, elle a des bonnes chances d'être nominée, du moins. Je ne sais pas si ça va gagner, mais elle a des bonnes chances d'être nominée.
De quoi fait ça? Que, Scarlett?
Scarlett Johansson.
Encore!
OK, qui vient de ça. Là,
mais qui est très bon, mais Adam Driver est encore meilleur, selon moi.
Ouais, ouais, mais Scarlett, veut être, c'est clair qu'elle va être nominée aussi, parce ouais. qu'elle n'arrête pas de faire des excuses pour toutes les affaires qu'elle a dit récemment.
Ouais, c'est ça. En plus, ben, ça vaut quand même la peine. Je sais pas.
Il est allé fouiller sur Twitter.
Ben, Marriage Story, selon moi, c'est quand même un excellent film. Là. Peu importe les Twitter et tous ces trucs-là, ça vaut quand même un film qui vaut la peine d'être vu. Sinon, mais je vais voir les autres gros morceaux. Là. Monsieur Rogers, c'est le deuxième film de Greta Gerwig. Jusqu'à date, les Word of Mouth n'est pas très bon. Little Woman, mais
bref.
C'est
ça.
Pas encore. Non, mais j'ai vu le cast, puis je veux dire, Emma Watson, je suis allergique à cette actrice-là. Elle joue comme un barreau de chaise.
Qui a joué Emma Watson?
Hermione Granger.
Ah!
Elle joue pas! Fait que, qu'est-ce que tu veux? Comparé à Saoirse Ronan, qui comme lui donne la réplique, puis Florence Pugh, qui est comme une de mes actrices favorites ces temps-ci. Genre, les deux ensemble, comparé avec Emma Watson, non merci. Fait que non, je pense que ça va être un peu une daube.
C'est Watson qui va faire vendre des tickets, hein, parce que ouais. Internet God. L'aime.
Oh, Seigneur.
Internet l'aime.
Ouais.
Toi, Pascal, est-ce que tu l'aimes?
Je l'aime? Pas vraiment. Ben moi, en fait, je suis plus réalisateur moi, que les acteurs, toujours, un scénariste. C'est sûr que ça va aider. Ou il y a des films, carrément, je vais regarder parce que c'est l'acteur, même si j'ai l'impression que ça va être une
quel
dope. Là.
Qui te fait faire ça?
Ben moi, j'aime beaucoup Michael Shannon, présentement. Je veux voir tous les films qu'il a fait, puis je les ai à peu près tous vus.
Ben, fait que lui, je pensais qu'il allait dire Frank Grillo.
Non, ça, je te laisse. Lui, Jason Statham, Vin Diesel, je te laisse. Moi, c'est Michael Shannon.
The Rock.
Adam Driver, puis Adam Driver, je l'aime beaucoup maintenant.
Adam Driver, ça c'est.
Kylo Ren.
Ben ouais. Puis il fait un. Il regarde les yeux, il fait signe oui de la tête, ça me va, on avance. Moi je pense que c'est les classiques, là. Genre Don the Dragon Wilson, puis Gary Daniels, là. Moi,
non, mais avant, j'avais De Niro, avant, mais depuis genre Ronin, ça fait longtemps que j'ai décroché.
J'ai vu son film qui est un interne qui retourne travailler à moins haut salaire, là, comédie romantique d'après-midi TVA. Là. Lui, il est à retraite, puis il décide de prendre un poste dans un bureau, puis là, il apprend à la fille que. La vie, des fois, c'est de ne pas répondre à son téléphone cellulaire.
T'as qui fait ça?
Robert De Niro.
Robert De Niro, ça mais c'est qui lui donne la réplique?
Oh, je m'en rappelle.
Ah, c'est une jeune, ouais, mais je me souviens plus.
Ah, puis il y a Meet the Fuckers 4 qui s'en vient aussi, ça va être bon.
Il y en a un 2, un 3, puis un 4.
Ah, puis il a fait Dirty Grandpa, hein, quand même côté 7 ici, là, qui aurait cru que Robert De Niro jouerait
dans quoi, ça?
D'un film côté 7. Non, mais Dirty Grandpa, ça avait été quand même côté... Ça.
Dirty Grandpa. Oui, c'était plate.
Ouais. C'est ça, il paraît que c'était une. Fait que je veux juste bref que tu passes. The Raging Bull.
Je sais pas c'est quoi.
Ou l'autre, le movie 43. Là.
42.
Je pense pas qu'il est dans 43. Non. Mais il y a Hugh Jackman.
Il y a plein de monde plate.
Oui, ils se sont fait avoir.
Oui, ils sont tous fait avoir.
Le piste qu'ils trouvaient tout drôle, il y avait des entrevues après, genre comme Halle Berry et Hugh Jackman, ils trouvaient ça drôle.
Ben, j'ai vu une bonne critique de Movie 43 qui donnait une autre perspective au film. Puis j'ai trouvé que la critique est vraiment intéressante. Elle est sur les internets. Là.
Ça, je ne l'ai pas vu venir, qu'on était pour parler de Movie 43.
Non, mais je fais juste un aparté.
Vas-y, mais j'adore ça.
Mais c'est le cinéma de Durandal, pour ceux qui le connaissent. Puis il a fait une belle analyse au niveau cinématographique de ce film-là. Est-ce que ça va plus me porter à apprécier ce film-là? La réponse à ça... contient trois lettres dont deux se ressemblent, c'est non.
Moi, je pense que c'est un moins 7 insultant. Ce movie 43, ça me fait rire.
Moi, je l'ai pas.
Toutes les jokes manquent la coche. Ça, c'est incroyable.
Moi, ça m'a rendu extrêmement déprimé. Genre, des fois, il y a des films que j'écoute. Pis, là, j'étais jeune à ce moment-là, mais il y a un film que j'écoutais dans ma vie que j'ai eu une migraine intense en l'écoutant, puis après ça, j'ai vomi. Ça avait comme il n'y avait rien d'autre sauf le film. C'était le film de Dungeons and Dragons.
Oh my God!
Je sais que si je réécouterais, ça serait sûrement comme « c'est correct » ou « whatever ».
Peut-être de ça que je vais parler la semaine prochaine. Les trois Dungeons and Dragons, c'est quand même assez drôle.
Mais quand je l'avais vu, j'étais tellement plein de rage. Puis je jouais même pas à Dungeon and Dragon.
C'était juste plate.
J'avais aucune idée c'est quoi Dungeon and Dragon.
C'était dégueulasse.
Je chialais contre tout. Puis j'ai tellement chialé que comme je pense j'ai pété des neurones, puis j'ai chialé rouge. Mon ami me disait de relaxer quand même. Oh. D'où? On dirait que t'es tout seul.
Tu me fais pas un jeu. On voit ta veine qui bat.
Respect!
Toi, t'as-tu eu de ça, Pascal, un film qui t'a poussé à bout?
Oui, il y en a plein.
Ben, physiquement, de même, là.
Ouais.
Ben, c'est le père.
Ben, peut-être pas à ce point-là, là, mais ouais, il y a des films qui m'ont rendu malade, littéralement. Là.
Ah ouais, hein?
Ouais. Je creuse dans ma.
Bon, ben,
ouais,
on peut sauter.
De quel, ça?
Moi, je peux parler de ce que j'ai vu.
Non, ouais. De quoi? T'aimes mieux pas en parler ou?
Non, mais continue.
Ah, moi, il y en a un qui m'a rendu malade. Le seul que j'ai eu des répercussions physiques. Puis je trouvais ça weird parce que je regardais le film. Puis là, à un moment donné, j'ai senti mon corps réagir. Puis j'ai fait, c'est la première fois que ça m'arrive. Puis mettons, les premières fois, tu sais, j'avais comme des hauts le cœur pour vomir. Mais je trouvais pas ça particulièrement dégueulasse. Puis là, à un moment donné, j'ai comme réalisé, ah, c'est le film qui me fait ça, tu sais. Fait que là, je suis comme allé ailleurs le temps que ça arrête, mais c'est dans Bad Taste de Peter Jackson.
Ah, le truc de vomi?
Ouais.
Ouais, ça, je savais vous aussi.
Quand les gars vomissent
dans le truc, c'est dégueulasse.
À cause, c'est dégueulasse.
Ouais.
Ben,
c'est pas parce que le film est pas bon.
Ben, c'est même pas si dégueulasse que
ben
ça.
Ben oui, c'était quand même, le pudding est assez dégueulasse.
Oui, oui.
Oh, ouais.
Chaque fois que je le voyais, j'étais, ah, c'est rare, je trouve des affaires dégueulasses, mais ça.
Mais ben,
moi aussi.
C'est la seule fois que un film a comme créé des stimuli incontrôlables physiques.
Ouais. Vu que tu parles de Baptiste, Brain Dead, le bout avec qui mange. Je pense que c'est du pudding aussi.
Oui, avec l'oreille
dorée. Mais c'était moins épais quand même que le pudding. Parce que le pudding, ça finit plus. Il se le passe tout, puis ça finit plus.
Puis on dirait qu'il est à la caissine.
Oui, de vomi.
Moi, le pudding, en fait, j'ai une petite anecdote là-dessus. Parce que Brain Dead,
dans le cul, en français,
c'est 92, 91. C'est la première fin de semaine de ma vie que mes parents sont allés en voyage avec tous mes petits frères, puis que je suis resté à la maison tout seul.
Fait que tu l'écoutais comme dans ce temps-là.
Là, je suis allé au club
peut-être
vidéo.
Peut-être qu'on l'écoutait en même temps, man.
Ça se peut.
Moi, j'avais 8 ans quand je l'ai vu.
Wow! Puis...
Oh my God!
Puis en tout cas, je suis allé me louer des films. Là, j'ai loué Brain Dead, puis je me rappelle, je pense que j'avais loué Bill et Ted 2. Puis c'est les deux films de toute ma vie que j'ai loué deux soirs d'affilée, Bill et Ted 2 puis Brain Dead. Puis tu sais, le lendemain, j'ai appelé tous mes amis. Il faut que tu viennes voir
ça. C'est pas vrai, tu m'avais dit que t'avais fait ça avec Nemesis.
Ah oui,
t'avais été leur loué.
Effectivement, effectivement. Je savais qu'il y en avait un troisième, j'avais oublié lequel. Mais le bout de l'oreille dans le pudding, dans le porridge dans Brain Dead... Pour la première fois de ma vie, j'étais tout seul à la maison, puis je me suis fait mon premier bol de pudding que je mangeais pour moi tout seul. Aucune joke, là. Puis là, je suis en avant de mon bol de pudding, puis je mange, puis là, l'oreille tombe dans le pudding, puis je fais... Come on!
Ben, regarde-moi, c'est la même chose qui m'arrive avec le pudding au tapioca, mais on rentrera pas dans le sujet.
Ouais.
Et là,
mais...
Ah non, pas les oreilles.
Parlant de Brain Dead, si je peux peut-être juste vous rendre jaloux, là, moi je l'avais quand même vu au premier Festival Fantastique parce que Peter Jackson est venu à Montréal.
Hey,
non, mais c'est parce que j'avais ma cassette de Bad Taste que j'avais acheté à New York parce qu'ici, il ne l'avait pas distribué, puis Peter Jackson me l'a signé. Il a marqué « Hey, Pascal, Bloody Wishes », puis je l'ai gardé encore.
Tu as touché à la main qui a touché Frodo.
Ben oui.
Touché à la main.
Mais ça, c'est avant qu'il chante.
Fuck.
Avant qu'il change. Avant qu'il devienne mauvais.
Ouais, hein, ça va moyen.
Ben, il crache quasiment ses premiers films.
Mais là, Peter Jackson, il a fait « They Shall Not Grow Old » qui a été aimé de tout le monde.
Ah oui?
Oui, c'est son film qui a pris toute la footage de la Première Guerre mondiale et inventé une technologie avec du monde pour comme... arranger les vieux films, les restaurer.
Okay.
Fait qu'il a restauré comme tout du footage de la Première Guerre mondiale, il a mis en couleur puis il a mis de l'audio.
Mais c'est là qui est bon. C'est là qui est bon, Peter Jackson, c'est en inventant les affaires.
Ouais.
Si on le restreint à juste diriger, il est pas bon.
Ben même s'il veut un scénario.
Mais d'Orbit, la raison.
Là, non, c'est ça.
C'est comme un technicien, là. C'est un gars de props, là. C'est un Jim Henson.
Ben, tu sais, c'est ça, lui, son truc, c'est qu'il a une vision.
C'est ça qu'il faisait. Il faisait tout.
Il a une vision, puis il va comme s'arranger pour la montrer, mais si on y donne pas, comme si on l'arrête. Puis quand il fasse comme non, t'as déjà tous les outils, il s'ennuie.
Ouais, mais moi je vois ça comme s'il est confortable, ça va pas donner un bon résultat.
C'est ça.
Parce que Lord of the Rings, c'est connu comme pendant qu'il faisait le tournage que tout le monde pensait que ça allait pas être bon. Genre, ça tout le monde était stressé. Viggo Mortensen était comme « This is gonna be shit. » Comme, ouais. J'ai aucune idée ce qui se passe. Viggo Jackson était stressé puis il faisait ses overtime. Ouais, quand il est arrivé à The Hobbit, il est comme « Je peux pas ce que je veux à Star, je suis des millions. » Puis il était assis une chaise. Ouais,
puis même il a avoué que The Hobbit, c'est même plus ce qu'il faisait. Man.
Ouais, ouais. Ouais. Il était déprimé. Là, il voulait pas faire le film.
Mais il y a personne qui le voulait. Ben, la, ben,
je sais, il a remplacé Del Toro. Del Toro, il s'est désisté du projet.
Ben, Del Toro a eu comme de la pression des studios pour partir.
Ben, Totoro et tout, il est parti de comme 100 projets.
Ben, de toute façon, un, c'est un petit livre, il aurait dû faire juste un film.
Ouais, non, mais Del Toro, il fait comme 5 films on the side, puis genre, il s'ennuie, tu sais, fait que...
Il devrait juste en faire un bon de temps en temps, mais ça serait pas pire.
Il devrait parler à son père et régler le problème.
On parle de la quantité.
Fait que toi, Florence, t'as dit que t'avais eu un film qui t'avait provoqué des réactions avec du pudding au tapioca.
Ah non, mais moi, de toute manière, j'ai déjà un curse avec du pudding au tapioca. Fait que peu importe ce que je vais voir.
Je pense que t'en avais parlé de ça à 70% à un moment donné.
Exact. Puis, mais en fait, j'étais allé voir.
Pudding au tapioca.
Mais genre, un moment donné, j'ai décidé d'aller voir... en fait, j'ai eu un billet gratuit pour aller voir Human Centipede.
Ouais.
Puis c'est là que j'ai décidé de manger du pudding au riz au chocolat. Fait que ça aussi, c'était une belle expérience dans la salle. Mais non, en fait, ce qui m'a donné comme... Le premier film qui m'a donné une réaction viscérale, ça a été « J'ai tué ma mère » de Xavier Dolan. Puis j'ai trouvé que c'était tellement plein de... Il était génial, genre. Puis il se plaignait la bouche pleine. Puis dans son film, c'est venu me chercher, puis j'ai fait comme, t'as pas à te plaindre. Puis genre, j'ai juste été fâchée. Puis il a fallu que je m'exile du salon.
T'étais-tu fâchée après le personnage ou après
le propos du film? Puis j'ai essayé de le toffer, puis c'était... J'étais incapable de toffer. J'ai tué ma mère. Il a fallu que, genre... C'est ma mère qui avait... louer le film, puis il a fait comme on va faire une belle petite soirée mère-fille, puis j'étais juste comme oh tabarnak! Puis là,
déjà
je suis
avec
partie,
le titre, il me semble que.
Ouais, c'est ça, il me semble qu'on aurait pris autre chose.
Ben, une soirée mère-fille chez nous, c'est. Ben, on va regarder comme des affaires d'auteur, puis on va comme en discuter pendant. Pis,
c'est cute, ça, c'est parfait.
Puis ouais. Là, c'est juste comme j'étais trop choquée pour en discuter, il a fallu que genre. J'aille prendre de l'air. Pour comme.
Puis l'avez-vous parlé, toi, puis elle, plus tard?
Non, j'ai juste fait comme.
Page tournée, genre.
Ouais, ouais, ouais.
Fait que peut-être que ta mère va écouter le podcast, puis elle va dire, OK, on est prêt à en parler, là.
Non, je pense que ma mère, elle était comme pas non plus super impressionnée par le film. Fait
c'est
que c'est.
Bon, ces films-là, j'ai jamais vu un film de.
Moi, dernièrement, son personnage était tellement insupportable que je l'ai. J'ai pas pu embarquer dans le film, mais j'ai pas compris. Il est tellement insupportable que.
Ben, moi, j'aime ces films, sauf. J'ai tué ma mère.
C'est bah moi, j'aime le film, pas que j'aime c'est à quoi j'ai une langue que j'ai vu au cinéma qui. Sorry, je me rappelle juste pas du tout, mais c'est le gars, il visite sa famille avec Vincent Cassel.
Ah oui!
C'est juste une famille qui
juste la fin du monde, ouais.
Man, ça. Genre, c'est un bon film, oui. À part comme il frappe un petit peu sur la fin avec le oiseau qui meurt. Ça, c'est comme waouh, j'avais compris, merci, tu sais.
Oui, oui,
un peu
oui.
De subtilité. Mais j'ai. Genre, c'est un bon film, bien fait, avec du bon acting. Vincent Cassel est excellent dedans. Mais j'ai haï ça l'écouter parce que c'était comme être chez nous, genre. Être chez nous quand j'étais jeune. C'est juste une famille qui saillisse et qui n'arrête pas de chicaner. Quand
non, mais ça, les films français, il y en a plein
c'est
comme
juste
ça.
Ça genre, je suis comme, pourquoi je voudrais voir ça au cinéma? C'est
des meilleurs nous, aussi, selon moi.
Oui.
Mais peut-être que le film réussissait à comme être crédible dans sa manière de
oui, créer. Oui, c'est ça l'affaire. Mais il y a plein de gens qui peuvent enjoyer parce qu'eux autres, ils ont des bonnes familles. Puis c'est comme, ah oui, c'est vrai, on peut avoir des drames des fois. Genre, à Noël, toutes les familles vivent du drame en général.
C'est à ça que ça sonne, Noël.
C'est ça.
Non, pas sûr.
Mais moi, c'est un triage toute ma vie à chaque jour. Quand, parce que genre, je peux pas handler ça. Genre.
Achetez-y des t-shirts.
Ouais,
Mais bref, tout ça pour dire que Xavier Dolan, c'est un bon réalisateur. C'est juste qu'il y a des fois où genre tu vas moins rentrer dans l'action ou que ça va venir te chercher puis faire une réaction comme t'as le goût de puncher dans un mur.
Il y a eu une petite zone de star system extrêmement Xavier Dolanesque.
Oui.
J'ai
toujours trouvé ça overblown. Selon moi, c'est genre je suis le nouveau Almodovar, je suis le nouveau Wong Kar-wai.
Ça se tique beaucoup la nouille.
C'est quoi, il dit je suis le nouveau...
Non, mais je veux dire, c'est clair.
Il a un gros égo.
D'ailleurs, il a fait quelque chose pour la première fois au Québec pour un premier film. Il a crissé dehors toute son équipe de post-production parce qu'il aimait pas son équipe, genre, puis il l'a remplacé par un autre au niveau du son, puis tout, là. Ça s'était jamais vu dans l'histoire du... Déjà, en partant avec son premier film, il s'était mis à dos à peu près la moitié de l'industrie.
La moitié de la prod, ouais. Ouais.
J'avoue, hein, parce que là, c'est des affaires qui se parlent, puis là, t'as des...
Oui, c'est sûr qu'il a grandi dedans. Sa mère est comme relationniste public. Ouais, son père, c'est Emmanuel Tadros. Puis aussi, il est à Charles Actor dans J'en suis à 4 ans, puis plein d'autres affaires.
Il a fait la pub de Jean Coutu.
Ah, oui.
Avec Charles Lafortune, tout le monde.
Disons qu'il connaît, c'est sûr qu'il connaît l'industrie et tout, mais il reste que, en tout cas.
Au Québec, je veux dire, pour être membre de l'UDA, d'habitude, il faut que tu commences quand tes parents y t'amènent dans l'UDA parce qu'ils sont dans l'UDA. Ouais.
C'est une espèce regarde, c'est un peu partout.
Oh, oui, on a fait une petite monarchie.
On l'avait dit en tant qu'on avait parlé du cinéma indien, on avait dit que c'est tous des fils de choses.
Ben, ouais, même chose.
Mais, tu voulais dire quelque chose?
Oui, mais son égo, en parlant de son égo qui est clairement gros, mais son dernier film, John F. Donovan...
Que j'ai pas vu.
Son avant-dernier film. Parce qu'il a fait Mathias et Maxime après. Mais c'est juste parce que ce film-là, il est resté un an. Il est resté un an sur les tablettes parce que personne ne voulait le voir.
Puis il avait parlé de la production. Puis dans une entrevue, il a avoué qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Genre, fait que, il disait, j'ai pris trop gros pour moi. Puis je me suis rendu compte durant le tournage que c'était trop un gros task. Puis ça m'a comme donné de la perspective sur les choses. Fait que
shit, hein?
Parce qu'il était tout fier de jouer avec Jessica Chastain, puis son personnage est disparu. Fait que là, il y a eu un clash quelque part. Il y a des affaires qu'on ne sait pas trop qu'est-ce qui est arrivé.
Il y a eu des patins de tournage. Là.
Ouais.
Ça, on aime ça. Let's go.
Ouais.
Moi, j'en connais pas. J'en ai sur d'autres plateaux, mais pas celui-là.
J'allais dire, avec ça, à cause de ça, ça fait un bout qu'on parle. J'ai pas parlé de film cette semaine que j'ai vu.
Ouais, tu peux en parler la semaine prochaine.
Mais je vais dire vite fait pour la prochaine épisode.
Ah, tu fais comme un préparez-vous la semaine prochaine.
Il y a trois films. Il y a trois films que j'ai vu récemment. J'ai vu Spider-Man Far From Home, que j'ai détesté. Je trouve. J'avais vu tout l'autre en CGI.
Into the Spider-Verse.
Ouais, ça c'était excellent.
Oui.
Mais Far From Home, je sais comme c'est weird, ça feel plus CGI que Into the Spider-Verse. C'est un live action movie. Ouf. Parce que ça, j'ai détesté. J'ai vu Le Dain, le nouveau film de Quentin Dupieux. Wow. Ça, je le recommande. C'est pas excellent, mais je le recommande.
J'ai énormément de réserves avec Le Dain.
Ouais, c'est ça. C'est pas excellent. Là, je trouve que c'est décevant.
C'est son plus mauvais depuis Robert.
Ce qui est pas pire, c'est que la semaine prochaine, on développera plus sur Le Dain, Spider-Man.
Mais Spider-Man, on n'a pas besoin, là, parce que tout le monde a vu ça. Ça a fait un million.
Le dernier, moi, je veux pas vu.
J'aime ça, le côté... On s'en reparle.
Le troisième. Le film que je veux parler, moi, c'est Gemini Man.
De Ang Lee. De Will Smith aussi.
Ouais, Will Smith, mais Ang Lee, c'est qu'il a dit, si t'aimes pas le film, c'est à cause de ta tête.
Ouh. Et voilà, la semaine prochaine, la critique exquise. Merci beaucoup, Pascal Grenier.
De rien.
Toujours un plaisir. Merci, Jérémy.
Hey.
Et notre invité de la semaine, Florence Payette.
Hey!
Colin Teco, live five. Oh yeah! Moi, c'est Tommy Godette et comme à chaque semaine, je vous invite à aller voir sur Spotify si vous voulez trouver toutes nos émissions de Critique Exquise. On arrive autour de la 60e, ça va vite. Et sinon, sur Facebook, il y a Pascal qui nous met plein de mimes tout le temps. Merci beaucoup à lui. Et sinon, Jérémy, il a mis un beau petit bouton où vous pouvez accéder au T-shirt à vendre de la gang. Il est vraiment hot, le T-shirt. J'en ai acheté deux. Fait que là-dessus, on vous souhaite de la bonne bobine puis à la semaine prochaine!